BW. Droits et libertés.
Le coronavirus n'en finit plus de bouleverser notre quotidien. Cette année pandémique continue d'obliger la moitié de l'humanité à sortir le moins possible de chez elle. Nous allons voir qu'elle affecte aussi forcément les gens qui travaillent à l'extérieur et qui tentent d'informer par exemple leurs concitoyens en ces temps si étranges que nous vivons tous. Auparavant, c'est au Brésil que nous nous rendons, où les autorités ont bien du mal à faire appliquer les mesures de confinement anti-Covid-19 aux 5 millions d'habitants des favelas. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous. Restez le plus possible chez vous, c'est le message que de nombreux gouvernements tentent de faire passer depuis plusieurs semaines aux habitants de leur pays pour endiguer le plus possible la propagation du coronavirus. Rester chez soi, ça peut être agréable quand on a de l'espace, quand on a l'eau, l'électricité et puis le confort matériel. Mais quand on habite dans un bidonville, eh bien ça peut vite tourner au calvaire. Dans nos émissions, nous vous avons déjà parlé des difficultés rencontrées dans de nombreux pays africains pour faire respecter les couvre-feux et les confinements décrétés. Au Brésil aussi, dans les quartiers les plus pauvres, beaucoup d'habitants ne peuvent pas rester chez eux, sans compter que les discours et la politique du président Bolsonaro ne facilitent pas la tâche aux plus démunis. Malgré tout, de plus en plus d'initiatives solidaires voient le jour pour organiser l'entraide dans cette période de pandémie, avec des distributions de nourriture, par exemple, dans les favelas.
Salut frère, ça va? C'est pas facile, hein? Ah mais tu as un petit bébé à la maison. Nous on distribue des dons, on vient du Koufa Héliopolis. Je te dépose le paquet ici, ok?
D'ordinaire, l'organisation Koufa s'occupe plutôt d'aider les gens à monter une petite entreprise. Mais à Héliopolis, comme dans d'autres quartiers pauvres de Sao Paulo, la vie économique s'est quasiment arrêtée. Alors la priorité maintenant, c'est de manger.
Moi d'habitude, je travaille dans la rue. Mais en ce moment, ce n'est pas possible. Pour mon frère, c'est pareil. Alors quand on n'a pas de travail, les dons, ça aide.
L'État de Sao Paulo a mis en place des restrictions de mouvement assez étendues. Il est interdit de sortir, sauf exception. Dans les favelas, les gens s'entassent beaucoup dans de petits espaces. Il n'est pas rare que plusieurs familles doivent même se partager un robinet d'eau. Alors évidemment, dans ces conditions, eh bien, il est difficile d'imposer des mesures de précaution en matière d'hygiène. Le Koufa tient un registre des distributions qu'il organise et poste des vidéos sur Internet pour montrer que l'aide arrive bien à destination. Dans les quartiers les plus pauvres, la plupart des habitants vivent au jour le jour, de petits boulots ou comme vendeurs des rues. Alors, ne pas sortir pour eux, ça voudrait dire ne pas gagner d'argent du tout pour la famille. Et c'est impossible, comme l'explique Celso Altaïde, le fondateur du Koufa.
Aujourd'hui, quand la société est... Tandis que le reste de la société est en quarantaine et passe au télétravail, la favela continue de travailler. Les habitants continuent de sortir, de s'exposer à des risques de contamination. Ils travaillent dans des stations-service parce qu'il faut bien qu'elles continuent de tourner. Ils livrent à manger, font la cuisine eux-mêmes ou livrent des pizzas et de la nourriture à domicile à ceux qui restent confinés. La favela, on la voit à la caisse des supermarchés, dans les entrepôts qui travaillent et prend des risques. C'est le travail de ces gens qui fait tourner les systèmes.
Les pouvoirs publics sont plutôt du genre versatile au Brésil. Certains gouverneurs de région ont décrété une interdiction totale de sortie, ce qui leur vaut des insultes de la part du président Bolsonaro, qui lui continue d'affirmer que le coronavirus n'est rien qu'une petite grippe. À Rio de Janeiro, il n'y a pas de couvre-feu total, mais William de Oliveira essaie quand même de persuader les autres habitants de son quartier, la favela Rocinha, de rester chez eux. Et ça, il le fait en tant que président de l'association des habitants du quartier.
Il y a quelques jours encore, la favela était vide, mais je crois que tout le monde n'a pas compris. Et puis rester chez soi, pour certains, ça veut dire ne pas manger. Beaucoup de gens ont réclamé de l'aide parce qu'ils n'ont plus de bouteilles de gaz pour faire la cuisine, plus d'aliments chez eux ou qu'ils ne peuvent plus payer leur loyer.
Avant l'arrivée de la pandémie, déjà le système de santé brésilien menaçait de s'effondrer. Seuls les plus riches peuvent se faire soigner convenablement. D'où les craintes d'hécatombe dans le cas d'une propagation du virus jusque dans les favelas.
C'est un désastre.
Ce serait une véritable catastrophe. Déjà qu'on a eu un pic de tuberculose que l'on ne peut pas soigner avec des médicaments. À ce moment, les gens n'avaient déjà pas compris qu'il fallait rester chez eux. Alors si le coronavirus arrive dans les favelas où les gens vivent dans la promiscuité, avec la pauvreté, ce sera catastrophique pour le pays.
Petit à petit, les pouvoirs publics semblent prendre conscience de l'ampleur du problème. Les gens qui n'ont pas d'emploi fixe devraient ainsi recevoir 600 réals de la part de l'État. Ça fait à peu près une centaine d'euros. Malgré les restrictions du président Bolsonaro, toutefois, qui veut limiter ce soutien à ceux qui sont déjà enregistrés dans un fichier d'aide publique, ce qui reviendrait à exclure environ 20 millions de personnes de ce programme d'aide d'urgence. C'est pourquoi des gens comme Celso Altaïd continuent d'aider de leur côté, lui avec le CUFA, pour que certains de ses concitoyens bénéficient directement de la solidarité, même s'il sait bien que lui non plus ne pourra pas atteindre tous ceux qui sont dans le besoin.
Le gouvernement ne nous simplifie pas la vie avec toute cette bureaucratie. Même quand ils nous font des dons de nourriture, l'administration a besoin de beaucoup plus de temps que ce que les gens peuvent attendre. Du coup, on choisit nous-mêmes les gens qui bénéficient de l'aide parmi ceux qui ne sont pas enregistrés auprès de l'État et on leur délivre l'aide directement.
Si tu veux tousser ou éternuer, fais-le dans le pli de ton coude ou dans un mouchoir jetable. Et jette-le dans une poubelle munie d'un couvercle. Protège-toi et protège les autres.
Alors nous venons de parler du Brésil et des difficultés des plus pauvres à y respecter les consignes de confinement, surtout dans les bidonvilles. Mais sur le continent africain aussi, la crise liée au coronavirus crée son lot de problèmes. Alors chez les journalistes par exemple, qui deviennent parfois la cible d'une censure renforcée, d'intimidation, voire même de violence physique quand ils tentent d'informer sur les réalités du Covid-19.
J'étais en train de faire une interview dans la rue quand un véhicule de l'armée s'est approché. Une soldate en est descendue et m'a dit « C'est toi qui fais des reportages sur nous. Je te préviens, ça ne nous plaît pas. Alors la prochaine fois... »
Youssef Abdoul Ganiou dirige une station de radio partenaire de la DW, Zouria FM. 3 jours avant l'incident que nous venons d'évoquer, la radio avait publié sur ses ondes et sur son site internet l'histoire et la photo d'un homme de 71 ans qui avait été brutalisé par des soldats lors d'un contrôle sur le respect des consignes de confinement. Le reportage s'appuyait sur des témoignages de la victime et de témoins oculaires et l'armée n'avait pas donné suite aux demandes d'interview des journalistes.
Ils font ça pour nous empêcher de faire normalement notre travail, pour qu'on abandonne tout sens critique.
À 2000 km de là, en Guinée-Bissau, Serifo Tawel Camara a vécu une expérience du même acabit.
La semaine passée,
je sortais tout juste de la radio pour laquelle je travaille et je me suis retrouvé nez à nez avec des hommes en uniforme. Ils m'ont agressé, m'ont donné des coups. Je ne suis pas le seul journaliste de Bissau à avoir été agressé ou mis sous pression.
Serifo Tawel Camara travaille pour la radio privée Radio Capitale. C'est le 24 mars qu'il s'est fait molester dans la capitale, Bissau. Comme dans d'autres pays, les autorités y ont décrété l'état d'urgence depuis le début de la pandémie de coronavirus. Toutes les frontières ont été fermées, les vols suspendus jusqu'à nouvel ordre. Oumaru Sissoko Embalo, qui a été déclaré vainqueur de la présidentielle par la commission électorale, a pris des mesures assez draconiennes pour restreindre les mouvements de population en Guinée-Bissau. Il n'y a plus de transport public qui circule depuis plusieurs semaines. Les marchés ne peuvent ouvrir que de 7 à 11 heures du matin. Et les rassemblements et manifestations sont interdits.
La liberté de la presse et le droit des journalistes à exercer librement leur métier sont sérieusement menacés. Or, il ne faut pas que la liberté de presse soit la prochaine victime du corona.
Indira Correa Baldé, présidente du syndicat de journalistes bissau-guinéen Sinjotex. Elle s'inquiète au point d'annoncer que des protestations sont en cours de préparation et qu'une plainte sera déposée au parquet général. On poursuit notre petit tour d'horizon par l'Afrique du Sud. Là aussi, les autorités ont décidé de limiter les sorties des habitants pour endiguer la propagation du Covid-19. Et depuis, de nombreuses plaintes pour violence ou abus de pouvoir ont été déposées qui mettent en cause directement les forces de l'ordre. Azara Karim, reporter de la chaîne d'information News 24, a assisté à une scène qu'elle n'est pas prête d'oublier.
Just to kind of see...
Le 27 mars, premier jour de confinement, je suis à Johannesburg et je sors faire un tour dans mon quartier. Je voulais juste voir quelle était l'atmosphère pour un reportage. Et là, j'ai vu qu'il y avait plein de policiers dans les rues qui poursuivaient les gens et parfois leur tiraient même dessus avec des balles à blanc.
Ces quelques exemples ne sont que des illustrations des nombreuses violations des droits de l'homme recensées ces dernières semaines par l'organisation de journalistes Reporters sans frontières. En Ouganda, la police a agressé le directeur du réseau de radio Julius Okungi qui travaillait sur la fermeture d'un bar. En Éthiopie, deux journalistes étrangers ont été trollés sur Internet. Des dizaines de milliers de followers ont été informés et c'était une fausse information qu'ils avaient été infectés par le coronavirus. En RDC, le journaliste Toli Totali Glodi de la chaîne de télé Alfayari TV aurait été renversé exprès par des policiers à moto alors qu'il était en train de faire un reportage sur le confinement dans sa province. Au Sénégal, une équipe de Touba TV a été bastonnée par un policier armé d'une matraque alors que les journalistes avaient une autorisation de la préfecture pour travailler sur le sujet. C'est la fin de ce magazine. Un grand merci à Abdoulahi Tanko, Bala, Yakunda, Danso et Antonio Kashkaïch pour les sons. Si vous voulez podcaster Droits et Libertés, allez sur notre site internet www.com/français dans la rubrique Nos podcasts ou dans notre médiathèque. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.